La montée est en approche pour les Girondins de Bordeaux. Elle pourrait être effective dès le week-end prochain à Annecy. On revient sur la victoire face à Laval, 3-0 des Girondins de Bordeaux avec notre expert du jour, Clément Carpentier de France Bleu Gironde. Notre invité dans le podcast de Bordeaux le Mag, Clément Carpentier, France Bleu Gironde, bonjour.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Clément, vous suivez les Girondins de Bordeaux depuis cette saison en Ligue 2, mais vous les avez suivis également lorsqu'ils étaient en Ligue 1 pour d'autres médias. On va bien sûr faire presque déjà le bilan, mais on va revenir sur cette belle victoire enregistrée face à Laval. Je dis belle victoire, alors c'est vrai, il y a 3-0, ça aurait pu faire 5 si Maja avait marqué les deux pénaltys. Est-ce que le contenu sur les 95 minutes de la rencontre vous a satisfait ?
Oui, plutôt, en tout cas, on satisfait de ces 95 minutes parce qu'on restait sur deux matchs pas accomplis, justement, au niveau du contenu, que ce soit à domicile lors de la victoire contre Caen, ou en déplacement à Quevilly-Rouen et ce match nul 0-0, avec des trous d'air quand même assez importants dans la rencontre, puisque c'était toute la première mi-temps en Normandie et contre les Canets ici, c'était plutôt la deuxième mi-temps. Là, on a eu enfin une équipe qui a remaîtrisé son match pendant, on va dire, la plus grande totalité de celui-ci, comme j'ai envie de dire ces dernières semaines, où on avait des Girondins de Bordeaux qui étaient un peu en mode rouleau compresseur et qui étaient juste passés au travers du côté de Metz, mais dû aussi à un fait de jeu assez important. Donc oui, au niveau du contenu, je suis plutôt satisfait, même si on n'a pas vu grand-chose, on va dire, du coup franc de Johan Barbet dès la troisième minute jusqu'au deuxième but de David Tachvili à la 32e minute. Mais au moins, on a vu une équipe qui était beaucoup moins en danger que ces deux derniers matchs. Et donc, au niveau du contenu, c'est quand même beaucoup plus intéressant, puisqu'en plus, comme vous l'avez dit, Alain, si Josh Maja inscrit ce pénalty, ou ces deux mêmes pénaltys avant la mi-temps, bon, il n'y a déjà plus de matchs. Et pour le coup, on peut même espérer un score plus large au final, pour le coup.
Alors, c'est bien que vous le disiez. C'est vrai qu'entre le but de Barbet et de David Tachvili, il ne se passe pas grand-chose côté bordelais. C'est Laval qui a plutôt le monopole du ballon et qui peut même égaliser. C'est pas un trou d'air, ça ?
Non, je dirais pas que c'est un trou d'air parce que on n'était pas si en difficulté que ça, à part cette parade de Gaëtan Poussin sur une glissade de Vital Mtimba dans un angle fermé. Les joueurs de Laval avaient quelques situations de jeu, mais pas non plus des grosses occasions. Et pour les Girondins de Bordeaux, ils étaient plutôt dans la maîtrise, alors que par exemple, contre Caen ou contre Quevilly-Rouen, on sentait une équipe d'en face beaucoup plus menaçante. Donc j'ai jamais vraiment senti vraiment des joueurs girondins en difficulté. J'ai pas non plus senti un trou d'air physique comme on avait pu le voir du côté de Quevilly-Rouen, où dans la première mi-temps, on s'était fait complètement dominer dans l'agressivité, dans l'état d'esprit. Et ça, pour le coup, c'était un point quand même très inquiétant des derniers jours. Et là, pour le coup, à aucun moment, on a senti une équipe qui était poussée dans ses retranchements par un adversaire, même sur une courte période ou dans un trou d'air. Donc c'est pour ça que je ne parlerai pas de trou d'air, je parlerai plutôt de gestion, comme cette équipe en a beaucoup l'habitude de le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'équipe la plus flamboyante du championnat, ça on est bien d'accord. Alain, c'est plutôt une équipe qui joue dans la gestion, qui joue sur le temps long, en espérant faire la différence face à son adversaire, notamment en l'épuisant. Donc voilà, c'est pour ça que je ne parlerai pas de trou d'air sur ce match-là, parce qu'il y a eu très peu d'occasions concédées, et une nouvelle fois, pas de but concédé non plus dans cette période, on peut dire, un peu faible.
Est-ce que l'on peut dire sur cette saison que c'est un Bordeaux très pragmatique, qui évolue à chaque match depuis le début, donc on va dire août du championnat, où on essaye d'être le plus clinique possible lorsqu'on a des occasions pour marquer?
C'est exactement ça, Alain. Je ne peux pas dire autre chose que ça. C'est une équipe hyper pragmatique, hyper efficace aussi, souvent, dans la plupart de ces matchs. Et on l'a encore vu d'ailleurs samedi quand même. Il n'y a pas non plus 50 000 occasions, mais généralement, ça finit au fond. Et c'est aujourd'hui ce qui fait la différence entre les Girondins de Bordeaux qui espèrent monter en Ligue 1 et en tout cas qui jouent le très haut tableau de Ligue 2 et d'autres équipes qui étaient à la course à un moment donné. Je pense à Sochaux, je pense à Bastia, même une équipe comme Metz qui à mon avis se crée beaucoup plus de situations que les Girondins de Bordeaux, mais n'a peut-être pas la même efficacité et le même pragmatisme sur le plan défensif aussi. Donc clairement aujourd'hui cette équipe des Girondins de Bordeaux, elle ressemble déjà énormément à son entraîneur, au caractère de son entraîneur qui est un entraîneur assez calme, assez pragmatique, qui est avant tout dans l'efficacité, qui connaît parfaitement la division qui est la Ligue 2. J'ai l'impression qu'en tout cas, c'est ce qu'il faut pour monter de Ligue 2 en Ligue 1. Et je veux dire, le meilleur exemple, c'est une équipe encore plus pragmatique que nous, eh bien, c'est bien le leader à vrai pour le coup. Donc c'est pour ça que je pense que c'est la force de cette équipe, justement, c'est d'être très pragmatique, comme vous l'avez dit, Alain. Et pour le coup, c'est peut-être ce qui va réussir à la mener à cette montée en fin de saison dans ces deux derniers matchs. Donc oui, c'est une image à l'image de son entraîneur, j'ai envie de dire, et c'est surtout un entraîneur qui, pour moi, tire le maximum de cette équipe, même s'il pourrait peut-être faire un peu mieux au niveau offensif avec des talents bruts qui pourraient encore plus progresser, mais ce sont des jeunes joueurs. Après, je trouve qu'ils tirent quand même énormément de cette équipe et pas loin du 100%.
Mais c'est vrai que quand on les voit jouer, on a l'impression qu'ils pourraient faire un petit peu plus et que ça pourrait être un petit peu plus flamboyant.
Ah bah c'est exactement ça, hein. Quand vous avez des joueurs comme David Tajvili, comme Bakwa, même comme Madja, ou même quand Franz Sergio il est dans un bon jour, c'est quand même un joueur qui est redoutable entre les lignes au milieu de terrain et qui peut trouver des passes verticales hyper importantes. On l'a vu notamment sur le deuxième but samedi face à Laval, où il a trouvé Dylan Bakwa qui lui-même a fait une belle passe verticale vers David Tajvili pour le but. Donc oui, c'est une équipe qui pourrait donner plus, mais si elle donnait peut-être plus vers l'avant, elle serait peut-être moins équilibrée. Et elle serait aussi peut-être moins en bloc équipe au moment de défendre. Et on a vu que s'il y avait un des points faibles cette saison dans cette équipe des Girondins de Bordeaux, c'était sur les phases de transition adverse. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a été obligé même de jouer avec trois milieux de terrain, parce que dès qu'on jouait à deux, on prenait des rafales en transition. Et même si on a l'une des meilleures défenses du championnat, ben elle ne pouvait pas tout gérer. Là, maintenant, on joue enfin avec deux milieux défensifs. On semble quand même avoir garder cet équilibre qu'on n'arrivait pas à trouver pendant de nombreux mois, donc c'est assez intéressant. Donc je me dis, si cette équipe était peut-être un peu plus portée vers l'avant et qu'on espérait qu'on espère un peu plus de spectacle, et ben finalement elle serait peut-être un peu moins bonne sur le plan défensif. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, Alain, en Ligue 2, à mon avis, ce qui compte, c'est d'avoir une défense en béton et d'avoir des attaquants qui soient cliniques au niveau de l'attaque.
Et ce qu'il y a de bien, c'est que cela ne gêne pas le public, parce que le public est derrière, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Bah, même si ce n'est pas toujours génial, on est là derrière parce qu'il y a cette envie de monter.
On en revient toujours à la même chose, Alain. C'est-à-dire qu'au final, qu'est-ce qui compte ? C'est le résultat. Et peu importe la manière, finalement, parce qu'aujourd'hui, on a une équipe qui n'est peut-être pas très flamboyante au niveau du jeu, mais qui se bat, qui est irréprochable dans l'état d'esprit et qui gagne ses matchs. Donc le public, au bout d'un moment, il voit que l'objectif Ligue 1, et encore plus quand vous êtes dans ce sprint final. En effet, il y a eu pas mal de critiques au niveau de l'automne, au niveau de l'hiver, où on sentait que cette équipe pouvait beaucoup mieux faire, qu'elle perdait en plus des points importants en fin de match. On ne le rappellera pas à jamais assez, ça, si heureusement ça se passe bien à la fin de la saison. Mais combien de points il y a eu de perdu en fin de match, notamment au mois de janvier et au mois de février. Et donc forcément, il y avait pas mal de critiques sur la qualité du jeu et du contenu montré par cette équipe. Mais quand vous êtes dans le sprint final, à 10 journées de la fin, j'ai envie de vous dire, si vous gagnez les 10 matchs 1-0 et qu'à la fin, vous avez rempli l'objectif, c'est-à-dire monter en Ligue 1, plus personne s'en souviendra de ces 10 matchs-là dans 2 mois, même le lendemain, j'ai envie de vous dire, et vous serez en Ligue 1. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le public, il supporte cette équipe à 300%. Et si les Girondins doivent remonter en Ligue 1 grâce à un but de la fesse droite de Josh Maja sur la dernière occasion de cette saison contre Rodez à la 92e minute, tout le monde sera content. Et donc voilà, même si le match n'aura pas été bon. Et d'ailleurs, je crois que Johan Barbet, le capitaine de l'équipe, l'a signalé en fin de rencontre contre Laval. S'ils avaient gagné le match par un but à zéro et un but à zéro dégueulasse, comme il a dit, il aurait pris aussi. Parce que, bah, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, mais dans ce sprint final, il n'y a que le résultat qui compte et peu importe le contenu, j'ai envie de vous dire. Même si c'est toujours plus rassurant pour aborder le match d'après, d'avoir réalisé une bonne performance et un contenu intéressant contre Laval, que de sortir d'une victoire accro contre Caen ou d'un match nul en bois, j'ai envie de dire, du côté de Quevilly-Rouen.
Invité de Bordeaux Le Mag, Clément Carpentier, journaliste de France Bleu Gironde. Clément, les Girondins de Bordeaux sont véritablement en course pour cette montée. On le savait depuis quelques temps, mais ça s'est véritablement éclairci. Il n'y a plus que Metz pour résister. Bordeaux face à Annecy, le même résultat ou un meilleur résultat, c'est la montée. On n'a même pas à attendre le match de Rodez. Ça serait bien, non?
Bah exactement, la donnée est très simple, hein, sur ce match d'Annecy qui aura lieu donc vendredi soir en simultané avec tous les autres matchs de cette 37e journée de Ligue 2. Si les Girondins de Bordeaux font un meilleur résultat que les Messins, qui seront dans déplacement eux aussi de leur côté, du côté de Sochaux, donc c'est toujours pas un déplacement évident, même si les Sochaliens sont en perdition, les Girondins de Bordeaux seront en Ligue 1 dès vendredi soir. Il n'y aura pas à attendre le match de Rodez. Donc voilà, il va falloir voir comment ça se passe au niveau du scénario. Je pense qu'il va falloir jouer ce match comme une finale, tout simplement, parce que ça sera une finale pour les Girondins de Bordeaux, puisqu'ils peuvent empocher leur montée dès cette rencontre ou s'en rapprocher très fortement, parce qu'en cas de victoire, c'est vrai qu'ils s'en rapprochent aussi très fortement. Mais en face, de l'autre côté, vous allez avoir aussi une équipe d'Annecy qui va jouer la finale pour son maintien, tout simplement, parce que pareil, les Savoyards, ils ont 3 points d'avance sur la zone de relégation aujourd'hui. S'ils gagnent ce match contre les Girondins de Bordeaux, ils seront pratiquement sûrs d'être maintenus en Ligue 2. Donc c'est vraiment deux équipes qui vont jouer une finale, l'une pour la montée en Ligue 1, l'autre pour son maintien en Ligue 2. Donc clairement, ça s'annonce un match très très chaud dans un parc des sports qui sera sûrement bouillant, face à une équipe qui a quand même réalisé des performances notoires cette saison en éliminant par exemple Marseille en Coupe de France et en allant jusqu'en demi-finale, en battant Le Havre, le leader, la semaine dernière, alors que ça faisait, je crois, 32 matchs que Le Havre n'avait pas perdu cette saison en Ligue 2. Donc voilà, c'est une équipe qui est capable de se sublimer sur un match. On espère que ça ne sera pas le cas pour les Girondins de Bordeaux, et on espère surtout que les Girondins vont rester complètement focus, parce que là aussi, où je les trouve très très forts dans ce sprint final, on parlait du contenu, du jeu, bref, de la stratégie, toutes ces choses-là, mais aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qui compte dans le sprint final, je disais, c'est le résultat et comment vous vous comportez dans les têtes et psychologiquement. Et pour moi, à ce niveau-là, les Girondins de Bordeaux, là, ils répondent vraiment présents de la première à la dernière minute ces dernières semaines et même ces derniers mois.
Samedi après-midi, à la fin du match, dans la zone mixte, j'entendais des Lavallois qui disaient c'est vraiment un public de Coupe d'Europe à Bordeaux, et ça les a un petit peu surpris parce qu'ils n'ont pas l'habitude de cette ambiance, même si à Laval, je me semble me rappeler que sur le match de Bordeaux, il y avait eu une très très belle ambiance. Mais c'est vrai que là, le public joue son rôle, quoi.
Ouais, il joue son rôle, et surtout, Alain, moi, ce que j'apprécie pour l'instant, je croise les doigts, je touche du bois, évidemment, c'est que ce public et cette pression populaire va dans le bon sens. Ça veut dire qu'elle ne semble pas empêcher les joueurs de jouer, alors que l'année dernière, vous vous souvenez, c'était un peu tout le contraire avec ce sauvetage qui a été manqué en Ligue 1. C'est qu'on avait aussi ces cortèges qui accompagnaient le bus sur les derniers matchs de la saison pour pousser les joueurs et se sauver en Ligue 1. On avait ce public qui répondait présent aussi quand même jusque dans les derniers matchs pour essayer de pousser cette équipe à sauver ses fesses en Ligue 1. Et malheureusement, j'avais envie de dire, ça ne sublimait pas du tout les joueurs. Au contraire, ça les rendait encore plus nerveux, peut-être encore plus stressant, alors que cette année, ça semble aller dans le sens contraire, et j'espère que ça va durer jusqu'au bout, que ce soit sur le match d'Annecy, et évidemment sur le match de Rotes, qui sera à très forte pression si la montée en Ligue 1 n'est pas encore assurée, et évidemment, ça c'est hyper important pour les joueurs, et surtout, pour les joueurs adverses aussi, ça change pas mal de choses, parce que autant en Ligue 1, les joueurs adverses sont quand même habitués à des ambiances très chaudes à l'extérieur, dans des stades comme Marseille, comme Paris, comme Lyon, comme Saint-Etienne, comme Lens, bref, voilà, vous êtes habitués au final à jouer face à un public important en face de vous, et à la limite, vous en faites abstraction, alors qu'en Ligue 2, quand vous êtes Laval et que vous venez jouer et que vous avez l'habitude de jouer tous les week-ends devant 6 ou 7 000 personnes au maximum dans votre stade, et des fois beaucoup moins encore à l'extérieur, quand vous vous êtes présenté au Matmut Atlantique et que vous avez 25 000 personnes face à vous, évidemment, c'est pas la même donnée psychologique et c'est pas la même chose à gérer, notamment quand vous êtes mené très rapidement au score, comme ça s'est passé samedi. Donc évidemment, le public là joue un rôle primordial, et je crois que d'ailleurs David Guillon l'a bien rappelé en fin de match, qu'il était très content de ça et que ça avait sublimé ses joueurs, en espérant que ça les sublime jusqu'au bout, justement, Alain.
L'arrivée d'un nouveau groupe de supporters côté Virage Nord, ils sont pas encore très très nombreux, mais peut-être que ça va prendre. Non. Est-ce que c'est, selon vous, une bonne chose?
Alors, pour le club et pour le Matmut Atlantique surtout, je dirais, c'est une très bonne chose, parce que ça permet d'avoir une ambiance des deux côtés du virage, et quand même, c'est assez intéressant. J'ai envie de vous dire, plus on est nombreux, mieux ça sera. Donc voilà, après, il va falloir voir à long terme la cohabitation, évidemment, puisque c'est deux groupes ultra, donc on sait jamais trop comment ces groupes ultra cohabitent entre eux, surtout que les gens qui semblent s'installer au nord viennent justement du sud, et il y a eu une petite fracture avec les leaders des ultramarines, et donc voilà, il va falloir voir comment ça se gère dans les prochaines semaines, et j'ai envie de dire surtout dans les prochains mois, parce que je pense que là, à ce niveau-là, tout le monde est focus sur l'objectif monté et qu'il n'y aura pas de problème sur cette fin de saison. D'ailleurs, je crois qu'à l'extérieur, ils sont en parcage ensemble et ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. Et je croise les doigts pour que ça, là aussi, ça continue à bien se passer. Donc c'est important, surtout pour le Matmut Atlantique, ce stade qui manque quand même sérieusement d'âme, qui vit pratiquement depuis son inauguration qu'à travers le Virage Sud et les Ultramarines. Donc s'il y a des supporters qui peuvent mettre aussi un peu d'ambiance de l'autre côté et que tout cela reste pacifique, ça ne peut être que positif pour le club, pour le stade et évidemment pour les joueurs qui sont sur le terrain.
Mais justement, vous dites pacifique, il faudra voir quand, si, en espérant qu'on soit en Ligue 1 la saison prochaine, le virage nord, c'est côté parcage visiteur. Donc là, ouais, là, ça risque peut-être de poser problème.
Alors, c'est pour ça que l'emplacement est un peu compliqué à trouver pour le Northgate. Donc, c'est le nouveau groupe de supporters ultra-bordelais au nord. Il est un peu difficile à trouver leur emplacement. Pour l'instant, ils sont en haut de la tribune nord. Normalement, ils devraient descendre en bas, donc se rapprocher du parquage adverse, j'ai envie de vous dire, à partir de la saison prochaine. Après, dans pas mal de stades, les parquages, ils sont aussi à côté de virages parfois ultra. Donc voilà. Il faudra juste bien se comporter, peut-être les mettre à l'opposé, je ne sais pas, ou les mettre bien au centre, mettre des cordons de sécurité aussi de façon importante. Donc voilà, et puis on verra bien ce que ça donnera. J'ai envie de dire, voyons, avant de déjà être dans le pessimisme et de dire que ça va être une catastrophe et tout ça et tout. Je pense qu'il faut déjà voir comment ça se passe, voir comment ça se passe entre les ultras bordelais aussi, avant de voir évidemment comment ça se passera avec les supporters adverses. Mais en tout cas, moi je pense que c'est une bonne chose pour le stade et pour l'ambiance dans ce stade.
Avant de parler à venir avec vous pour terminer ce podcast, Clément Carpentier, journaliste de France Bleu Gironde, un mot sur votre tweet après la révélation des nommés pour les trophées UNFP. Et vous avez dit, et Johan Marbet, on aurait pu rajouter, et Greg Arsen aussi, non?
Ouais, exactement. Alors je pense que quand même, Johan Marbet le mériterait plus que Stian Gregersen, parce que Johan Marbet amène une autre dimension qui n'est pas seulement sa dimension de défenseur, mais sa dimension de capitaine, je dirais même d'entraîneur, de président du club, de dirigeant. Bref, il représente à peu près tout aujourd'hui au Girondins de Bordeaux, Johan Marbet. Et quand on sait d'où vient ce club, bah franchement, si vous ne tombez pas sur un mec comme ça l'été dernier, je ne sais pas comment vous faites cette saison. Donc c'est pour ça que moi, ça me surprenait énormément que Johan Marbet ne soit pas nominé, j'ai envie de dire, même à la place de Josh Maja, qui reste le meilleur buteur de l'équipe avec 16 buts en Ligue 2 cette saison. Mais voilà, c'est tout un symbole, Johan Marbet. Puis c'est aussi un joueur qui est décisif. Alain, je rappellerai quand même que c'est lui qui a débloqué le match à Valenciennes, qui était quand même pas très bien engagé avec son coup franc direct. Contre Laval, c'est de nouveau lui qui inscrit ce premier but, qui libère les Bordelais dès la troisième minute de jeu. Donc il amène en plus une dimension offensive hyper importante, parce que je crois que sur toute la saison, toute compétition confondue, il en est déjà à 8 buts, et c'est tout simplement le meilleur buteur, le deuxième meilleur buteur de l'équipe. Donc voilà, au-delà de ses performances défensives qui sont tout simplement irréprochables, parce que je pense que à part le match, son premier sous le maillot bordelais à Saint-Etienne, où il était un peu passé au travers après pas avoir joué depuis 4 mois, je pense que d'un point de vue défensif, il n'a pas loupé un seul match de la saison. J'ai envie de dire comme Stian Gregersen aussi, mais en plus, il apporte une dimension offensive hyper intéressante avec ses coups francs directs et puis aussi son jeu de tête sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, et après, je vais pas revenir sur toute la dimension symbolique et évidemment le leadership qu'il apporte à cette équipe des Girondins de Bordeaux. Donc c'est pour ça que je trouve assez aberrant que Johan Marbet ne soit pas nominé dans ses trophées UNFP du meilleur joueur de Ligue 2, même si, ça on peut l'avouer, même en tant que supporter bordelais, le meilleur joueur de cette Ligue 2, c'est évidemment l'attaquant du FC Metz, Nico Tadze, et le meilleur buteur de ce championnat, qui est pour moi bien au-dessus, évidemment, de cette Ligue 2.
Et puis malheureusement, il y a toujours la prime à l'attaquant dans ce genre de récompense. Clément, l'avenir, alors c'est bien sûr ces deux derniers matchs et on espère l'aboutissement de cette saison avec la montée. Mais l'avenir aussi, et vous l'avez tweeté, c'est au mois de juin, le 22 juin, avec un rendez-vous devant la DNCG, peut-être un premier rendez-vous. Est-ce que l'on peut être confiant, vous qui cherchez toujours à savoir ce qui s'y passe?
C'est vrai qu'on essaye toujours de savoir comment ça va se passer un peu pour les Girondins de Bordeaux, Alain, parce que évidemment, on est tous traumatisés par la saison dernière et j'ai envie de dire même depuis maintenant 5 ou 6 ans par les passages du club devant la DNCG, hein, parce que même à l'époque de King Street et Fort Press ou encore de GACP, évidemment, on n'était pas très rassurés au moment d'aller devant la DNCG. Ça s'est empiré au fil des années, j'ai envie de dire, jusqu'à cette relégation sportive et pratiquement cette relégation aussi administrative et financière l'été dernier. Donc évidemment, la DNCG, c'est un espèce de petit cauchemar pour tous les supporters bordelais depuis quelques années. Et évidemment, on fera très attention à ce qui va se passer le 22 juin lors de ce premier passage devant la DNCG. Alors, il y a des points positifs, hein. C'est que le club déjà a survécu l'été dernier et surtout les restrictions, notamment cet hiver, ont été levées par la DNCG, donc au passage de la mi-saison. Ça veut dire que le club était dans les clous, que les clubs avançaient positivement, puisqu'ils n'ont pas été maintenus sur le mercato hivernal. Et donc, en gros, si les Girondins avaient voulu faire n'importe quoi lors du mercato hivernal, ils auraient pu le faire, par exemple, puisqu'ils n'avaient plus de restrictions. Donc, c'était quand même un bon signe envoyé de la part de la DNCG. Après, reste à savoir comment les finances du club vont sur cette deuxième partie de saison, où on savait très bien au club que ça risquait de devenir un peu ric-rac à partir du mois d'avril, on va dire ça, et que bah, il va falloir serrer les boulons et surtout espérer une montée en fin de saison. Après, il n'y a pas non plus d'inquiétude comme la saison dernière. Là, c'est la situation n'a rien à voir au niveau financier par rapport à ce qui était le cas la saison dernière, où on s'est quand même présenté devant la DNCG, je le rappellerai, lors de la première audition, avec un déficit de moins 53 000 euros, ou une dette en tout cas très importante. Donc c'était sûr et certain, ça semblait très compliqué d'avoir la validation de la DNCG la première fois. Là, ça ne sera pas le cas. Pour le coup, on sait qu'avec la montée, bah, ça vous assure quand même des revenus au niveau des droits télévisuels qui sont hyper importants et qui permettraient au club, apparemment, sur ce que dit Gérard Lopez, le président et propriétaire du club, d'être à l'équilibre au moment de se présenter devant la DNCG et de présenter un budget intéressant en Ligue 1. Donc voilà, parce qu'en fait, le véritable enjeu, j'ai envie de vous dire, sur la DNCG de cette saison, notamment si les Girondins de Bordeaux monter en Ligue 1 à la fin de cette saison et de ces deux matchs, c'est de savoir qu'est-ce que vous présentez en termes de budget l'année prochaine en Ligue 1, où malheureusement bah, la concurrence sera ultra rude et que les Girondins de Bordeaux joueront pas sûrement les premiers rôles. Donc voilà, même s'il y aura une dynamique sportive, bah, il va falloir renforcer l'équipe à ce niveau-là, et donc quels sont vos moyens en face et tout ça. Donc c'est là que ça va être intéressant. Et évidemment, dans le pire des scénarios, si le club devait rester en Ligue 2, bah là, de nouveau, il faudrait serrer les fesses devant la DNCG et surtout voir comment on peut boucher les trous, puisqu'il y en aurait, il y aurait un trou de 15 millions d'euros, 15-20 millions d'euros sur les chiffres qui sont sortis dans la presse. Donc il faudrait aussi voir comment le club peut passer ce rendez-vous important de la DNCG. Mais j'ai envie de vous dire que ça, bah, ça sera évidemment dans un second temps, et on espère que d'ici là, bah, on aura quelque chose à fêter de très beau et qu'on sera, on va dire, un peu plus soulagé ou un peu plus serein au moment d'aller devant la DNCG le 22 juin.
Est-ce que selon vous, ce passage passe, est-ce que l'on peut dire que qu'on soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, c'est quand même totalement différent. En Ligue 2, on va être obligé de vendre des joueurs, mais est-ce que si on va en Ligue 1, on n'est pas obligé aussi d'en vendre parce que il y a des dettes quand même encore à rembourser?
C'est ça, exactement. Même si les dettes sont un peu moins importantes que la saison dernière, bah le club évidemment hein, va être obligé de vendre certains joueurs. J'ai envie de dire, même s'ils remontaient en Ligue 1, tout d'abord parce que bah, c'est peut-être des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément envie de rester au Girondins de Bordeaux. Donc voilà, qui ont peut-être envie d'aller voir autre chose, de continuer leur progression, eux, après leur très bonne saison en Ligue 2. Le club aussi, bah, je suis désolé Alain, mais malheureusement, on n'est pas le Paris Saint-Germain, et quand il y a un club en face qui vient avec une offre très intéressante, bah, on est bien obligé de la regarder quand on est dans la situation économique des Girondins de Bordeaux. Et ça, je pense que les supporters l'intègrent enfin, au bout d'un certain nombre d'années, d'être capable de se dire, bah ouais, mais à un moment donné, quand on vient avec des offres importantes, le club, il ferait peut-être mieux de vendre, même si sportivement, c'est une perte importante. Donc voilà, c'est toute la problématique aujourd'hui d'un club comme les Girondins de Bordeaux. Donc en effet, peu importe si le club est en Ligue 1 à la fin de la saison ou reste en Ligue 2, il y aura forcément des ventes de joueurs. Et j'ai envie de vous dire, il est assumé par la direction, donc c'est plutôt bon signe, parce que c'est une certaine forme de transparence vis-à-vis des supporters. Et moi, j'ai l'impression que les supporters le comprennent aussi enfin un peu, que les Girondins de Bordeaux ne sont plus donc ce club mastodonte de la Ligue 1 d'il y a 10 ans. Voilà, parce que moi, ce qui m'a marqué ici pour suivre ce club, alors depuis un peu moins longtemps que vous, Alain, puisque vous avez eu la chance de suivre les grandes heures de ce club, et c'est pas forcément mon cas, mais ce qui freinait aussi un peu les Girondins de Bordeaux ces dernières saisons, en tout cas ce qui les rendait un peu agaçants avec moi, mon regard extérieur, c'est que j'avais l'impression que les supporters étaient complètement restés bloqués en 2009, quoi. Et à un moment donné, on est en 2023, c'est plus du tout la même économie du football en Ligue 1, c'est plus du tout la même concurrence avec un club qui est au-dessus de tout, le Paris Saint-Germain, mais aussi avec d'autres clubs qui sont bien au-dessus de vous au niveau financier, et que vous, en fait, pendant des années, vous avez juste essayé de boucher un trou en fin de saison pour essayer de sauver le club et le maintenir à peu près là où il doit être, c'est-à-dire dans le top 10 de Ligue 1, mais que, évidemment, sur une saison, vous pouvez vous retrouver en Ligue 2, hein, on n'est pas les seul club, on n'est pas le seul club mythique de Ligue 1 qui malheureusement n'a plus les finances pour vivre comme il vivait avant et qui s'est retrouvé en Ligue 2. Hein. On a nos amis stéphanois, ils y sont allés aussi. Hein. Nos amis lensois qui sont aujourd'hui deuxième de Ligue 2, ils y sont allés aussi à un moment donné. Donc voilà, il y a des clubs qui sont en Ligue 2 depuis des années. On peut passer à Sochaux par exemple. Donc voilà, il y a même des clubs qui ont disparu pendant un moment de la carte du football français comme Bastia. Donc voilà, moi je suis assez content à ce niveau-là que les supporters aient pris conscience d'aujourd'hui quelle était vraiment la place des Girondins de Bordeaux dans le football français. Donc voilà, cette descente, finalement, je ne sais pas si c'était un mal pour un bien, mais en tout cas, elle a permis de ressentir certaines choses et de repartir à zéro, et aujourd'hui de repartir dans une dynamique positive. Et maintenant, il faut espérer qu'une seule chose, c'est d'une, que le club monte en Ligue 1 et que cette dynamique positive, qu'elle soit sportive ou peut-être financière bientôt, soit positif et se poursuivre aussi dans les prochaines saisons. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet-là.
Dernière question, Clément. Est-ce que, selon vous, le projet Gérard Lopez a évolué? On savait et on sait que c'était du trading. Alors, pas comme les Américains voulaient le faire, mais c'est un peu ça quand même, le projet de Gérard Lopez. Est-ce qu'avec cette réussite de cette année, l'éclosion de jeunes venus du centre de formation, son projet a un peu évolué?
Alors, je ne sais pas s'il a évolué parce que moi, pour moi, ça reste quand même un projet qui reste basé sur le trading des joueurs. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais il y a quelques instants, la direction ne s'en cache pas, contrairement à la précédente qui ne voulait pas le dire et qui le faisait, en fait, voire encore plus que Gérard Lopez. Le modèle de Gérard Lopez, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vécu, notamment du côté de Lille, c'est le trading de joueurs. Après, comment vous faites ce trading de joueurs? Est-ce que vous importez des joueurs de l'extérieur, des jeunes joueurs extérieurs, ou que vous ramenez aussi 11 recrues comme la saison dernière en espérant que un ou deux va performer très très fort et que vous allez vous sauver en Ligue 1 et que vous allez pouvoir en vendre un très très cher qui vous permettra tout simplement de remplir les caisses. Malheureusement, le scénario pour moi n'est pas bon du tout à ce niveau-là et on l'a vu la saison dernière. Ou est-ce que vous faites comme cette année, vous continuez à vous appuyer sur votre centre de formation, comme vous l'avez dit Alain, ça veut dire avec des joueurs comme Junior Manga, comme Dylan Bakwa, comme Malcolm Bokele, peut-être comme Issouf Sissoko, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup sa chance cette saison. On peut penser à d'autres jeunes qui ont fait des apparitions, comme Delaurier Chaubé, comme Marvin Delima, comme le jeune Sebili qu'on voit ces dernières semaines dans le groupe. Donc voilà, est-ce que vous vous appuyez plutôt sur ce centre de formation et en espérant développer ces joueurs, en espérant en avoir 2-3 qui perdent forme au très haut niveau? Moi, je pense que c'est la bonne solution et c'est pas de ramener forcément que des joueurs de l'étranger avec des jeunes prospects, parce que des fois ça peut marcher, des fois ça ne peut pas marcher. Là, au mois de janvier, on a un jeune joueur qui a été ramené de l'étranger, Alexis Pitou. C'est un jeune joueur qui a du potentiel, ça personne peut le nier, mais aujourd'hui ça reste un jeune joueur aussi et qui n'a pas de stade déjà en Ligue 2, donc il faudra voir aussi ce que ça donne la saison prochaine. Et voilà, il faut peut-être en ramener un ou deux de l'étranger comme ça, des prospects, mais sinon il faut s'appuyer sur son centre de formation. C'est indispensable, pour moi en tout cas c'est la solution. Et je suis désolé, les faits nous donnent raison, Alain. Entre ce qui s'est passé la saison dernière et ce qui se passe cette saison, je veux dire, il y a un monde. Parce que au-delà du fait de s'appuyer sur des joueurs qui sont déjà dans votre propre centre de formation, donc qui vous coûtent 0€, il y a aussi un attachement au club de ces joueurs dans les moments difficiles qui est hyper important par rapport à des joueurs que vous ramenez de l'étranger et qui, j'ai envie de vous dire, n'ont aucun lien avec le club. Et ça, je peux en citer une pelletée la saison dernière dans cette équipe des Girondins de Bordeaux. Et on l'a bien vu, malheureusement, ça a conduit au drame qu'on a connu en fin de saison dernière et à la relégation. Donc je pense que ce projet de trading de Gérard Lopez, il va être maintenu, parce que de toute façon, j'ai envie de vous dire que c'est la seule solution. Et j'ai envie de vous dire même plus largement, hein, c'est la seule solution aujourd'hui pour un club qui n'a pas de moyens illimités pour jouer en Ligue 1. Hein. Il n'y a pas que les Girondins de Bordeaux qui font du trading. Hein. On voit même aujourd'hui des clubs français qui passent à la multipropriété. Hein. On peut parler à Lorient, on peut parler de Strasbourg peut-être dans quelques semaines. Donc voilà, il faut trouver des revenus supplémentaires. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il y a presque 2 solutions dans le football français. Et malheureusement, on les déplore. C'est le trading de joueurs et la multiple propriété. Ou sinon, il faut que vous tombiez sur un mécène qui décide d'investir à perte dans le football français. Donc, le projet de Gérard Lopez, je pense qu'il n'a pas évolué sur le fond, mais qu'en revanche, il va peut-être évoluer sur la forme, comme il a évolué cette année, en s'appuyant beaucoup plus sur le centre de formation que sur des jeunes prospects étrangers. Et ça, pour le coup, peut-être que c'est une des leçons qu'ont appris Gérard Lopez et Anne-Marc Lopez, son directeur sportif cette saison.
Et en espérant que la réserve se maintienne, parce que si elle descend en régionale 1, ça va faire une grosse différence. Hein, que vous soyez en Ligue 2 ou Ligue 1, ça sera pareil. Ça risque d'être un petit peu délicat. Hein.
C'est surtout que déjà, aujourd'hui, en ayant une réserve en N3, c'est pas le top du top. Hein. La plupart des réserves de Ligue 1, elles évoluent en Ligue 2. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que cette réserve, c'est une vraie réserve de foot, de club de haut niveau. C'est-à-dire que c'est une équipe de U19, voire une équipe de U18 ou U17. Et ça, c'est intéressant parce que vous quand même permettez aux jeunes joueurs de se développer un peu plus rapidement en termes physiques. Et ça permet d'être un peu plus près quand vous arrivez justement dans des championnats comme la Ligue 2 ou la Ligue 1, mais surtout la Ligue 2 cette saison, parce qu'on a vu des jeunes joueurs, Alain, comme Dylan Bakwa ou Junior Manga, ou même Delorier Chaubet, ou Marvin Nelima quand ils ont joué, qui étaient prêts, en tout cas d'un point de vue physique. Peut-être qu'évidemment, ils n'ont pas encore du tout le bagage complet pour jouer dans un championnat comme la Ligue 2 ou la Ligue 1, un championnat professionnel, mais au moins, je trouve que physiquement, ils ont déjà un peu de répondants, et ça, c'est intéressant. En effet, si la réserve devait descendre en R1, bon là, pour le coup, ça deviendrait vraiment très compliqué. Mais malheureusement, c'est le danger de cette saison, j'ai envie de vous dire, pour tous les clubs professionnels et semi-professionnels, c'est qu'avec la réforme qui a été votée par la Fédération française de football, malheureusement, il y a énormément de descentes. Je crois qu'en N3, sans me tromper, Alain, c'est 5 ou 4 descentes, donc c'est énorme aussi. Donc, en fait, vous avez aujourd'hui une réserve des Girondins de Bordeaux qui se situe à peu près dans le ventre mou de son championnat et qui, malheureusement, à deux journées de la fin ou à un peu plus, peut encore descendre parce qu'il y a énormément de descentes. C'est aussi ça la problématique. Donc, il va falloir voir, évidemment, comment ça se passe dans les prochaines semaines.
Merci Clément Carpentier, France Bleu Gironde. On vous souhaite deux très beaux matchs à vivre et, espérons-le, une montée.
Oui. Ça, je vous avoue, Alain, je pense que vous et moi, nous l'attendons, mais vraiment de pied ferme, cette montée. Et si elle pouvait arriver dès le match d'Annecy, qu'on puisse faire une belle fête contre Rodez lors du dernier match à Novicil, franchement, ça nous ferait beaucoup de bien, parce que je sais pas vous, Alain, mais j'ai l'impression qu'ici, le bonheur, on n'y a pas souvent beaucoup le droit ces dernières saisons aux Girondins de Bordeaux. Et ça serait bien quand même que ce club retrouve l'élite du football français. Et puis, enfin, un peu de positif, j'ai envie de vous dire, après tout ce qu'on a vécu ces dernières saisons.
L'invité de Bordeaux Le Mag, France Bleu Gironde, Clément Carpentier, on le remercie pour toutes ses précisions sur la saison bordelaise. Dans quelques jours, vous retrouverez une interview de Yannick Stopira qui lui nous racontera ses années Bordeaux sur bordeauxlemag.fr.